إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous continuons inshallah غزوة فتح مكة. La conquête de la Mecque. Donc on a parlé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné sa promesse de soutenir la tribu de Khuza'a qui s'est fait attaquer par la tribu de Bakr, Banu Bakr, avec le soutien de Quraysh. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré cet acte comme une annulation de la trêve de Al-Hudaybiyah. D'accord ? Et donc il prépare une armée pour aller conquérir la Mecque et définitivement, et mettre la Mecque dans le cercle des musulmans. Donc, on a parlé de l'événement où Hatib, un des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé une lettre pour les Mécois, pour les avertir, attention, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des invocations, « Ya Allah, khud anna al-umoum, Ya Allah, fasse que les gens de la Mecque ne soient pas au courant de notre arrivée. » Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait éviter un bain de sang à la Mecque. Il voulait éviter. Et on va le voir par la suite. Parce que si Quraysh est au courant, qu'est-ce qui va se passer? Ils auront pratiquement 10 jours pour se préparer. Donc il y aura une armée prête à attaquer les musulmans, à défendre la Mecque. Et qu'est-ce qu'il y aurait ? Ben, une vraie grande bataille. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait éviter. Il demande, Ya Allah, khud 'anna al-'uyun, Ya Allah, que les espions de Quraysh n'arrivent pas à prendre de nos nouvelles. Et malgré tout, un compagnon envoie une lettre et on a vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réglé ce problème-là. Maintenant, l'armée musulmane commence à partir de Médine. 10 000 hommes, 10 000, vous imaginez, 10 000. Il y a quelques années, ils ont fait, deux ans, ils ont fait la Umrah, ils étaient 1400. Alors regardez, et ça c'est un point très important, l'islam en période de paix se propage. Pourquoi ? L'islam c'est la religion de la conviction, la religion du Coran Karim. Ils ont en face d'eux des gens qui comprenaient la langue arabe. Il suffit de leur lire une sourate et les gens se convertissent. Là, c'était... Et Allah a fait en sorte que l'islam est devenu vraiment la première religion avec 10 000 hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte la Mecque. Il a été rejoint par des tribus, Banu Salim et d'autres tribus, Ghifar. Ils ont envoyé des hommes aussi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était des hommes musulmans. Tout le monde était musulman, 10 000 musulmans. Donc, 10 Ramadan. Ramadan, est-ce que Ramadan était obligatoire ou pas à cette période-là, l'année 8 hein? Est-ce qu'il était obligatoire ou non? Le Ramadan, il était obligatoire à partir de l'année? La deuxième année de l'Hijra. Donc, Ramadan est obligatoire. Donc, les musulmans ont fait la bataille de Badr pendant le mois de Ramadan, le 17. Et la bataille de Fatih Makkah, le prophète Hassan est parti le 10, il est arrivé à quelle date à la Mecque? Là, le 20. L'armée musulmane est arrivée le 20 à la Mecque. Donc, le 20 Ramadan, gardez bien cette date, c'est la conquête de la Mecque. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné une partie et a rompu une partie de ce voyage. Pour montrer aussi que pendant le voyage, on peut jeûner et on peut aussi ne pas jeûner parce qu'on a une autorisation de ne pas jeûner. 10 000 sahabi et il a donné la Médine à Abu Dhar, Abu Rahm al-Ghifari. Abu Rahm al-Ghifari. Donc il y avait un responsable de Médine. Comme je vous ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il quitte Médine, il laisse derrière lui un chef, un référent vers qui les gens reviennent. Et quand il est arrivé à Al-Juhfa, ou un peu plus avancé que Al-Juhfa, qui est venu? Al-Abbas. Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Qui est Al-Abbas? L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le frère de Abdullah. Al-Abbas ibn Abi ibn Abd al-Muttalib. Donc c'est l'oncle Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. C'est le frère de Abu Talib. C'est le frère de Hamza, c'est le frère de Abdullah, c'est le frère de Abu Lahab. D'accord? Ils étaient 11. Et donc, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive. Et Al-Abbas, en réalité, ça, il faut bien le savoir, il était à la Mecque, il n'a pas fait le Hijra. Pourquoi il n'a pas fait le Hijra, Al-Abbas? Et quand c'était la bataille de Badr, il a participé à la bataille de Badr avec les mécréants. C'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à l'Abbas de rester. L'Abbas était musulman depuis des années. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait que l'Abbas reste à Médine, à la Mecque. Tout en montrant qu'il n'était pas encore musulman, qu'il n'est pas musulman. Donc il montrait aux gens qu'il était comme eux, parce qu'il est venu avec l'armée de Quraysh pour combattre les musulmans. Il était là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une consigne à tous ses compagnons. Il leur a dit, celui qui voit l'Abbas, qu'il ne le tue pas. Parce que l'Abbas, c'est un musulman. Même s'il est avec l'armée des non-musulmans, il avait un rôle. Et c'est quoi son rôle, l'Abbas?
Espion.
Espionnage. Oui, c'est... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un homme de raison. Il faut... Ça, c'est des choses... Tu ne peux pas combattre comme ça sans avoir les bases de... du combat. Les bases du combat, ben ça fait aujourd'hui, c'est plus que jamais, hein, le combat, c'est armée contre armée, mais aussi des espions contre des espions, des informations contre des informations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ça, sallallahu alayhi wa sallam. Il utilisait tous les moyens qui étaient légaux pour faire vaincre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'Abbas a attendu jusqu'à la 8e année. Et il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa famille. Il a quitté discrètement la Mecque et il vient rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa famille. Donc, فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء arrivé à l'Abwa. L'Abwa, c'est un endroit, il va vous rappeler quelque chose, c'est là où la maman du prophète sallallahu alayhi wa sallam est morte. Amina. L'Abwa, c'est un endroit entre la Mecque et Médine. Amina avait son fils Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui avait 6 ans. Et sa nourrice, qui était Umm Ayman avec eux, ils étaient tous les trois. Et Amina est morte à cet endroit-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se souvient de cet endroit-là. D'accord ? Donc, Al-Abwa, qui est venu à Al-Abwa ? Il y avait quelqu'un qui s'appelait Abu Sufyan ibn al-Harith. Abu Sufyan ibn al-Harith. Attention, Abu Sufyan ibn al-Harith, c'est pas Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan ibn Harb, c'est qui ? C'est l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a fait la bataille d'Uhud contre les musulmans. C'est un chef de Quraysh. Abu Sufyan ibn al-Harith, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son cousin direct. Mais c'était l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était comme Abu Lahab. C'était son cousin. Mais il faisait exactement la même chose que Abu Lahab. À chaque fois quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se présente, il vient dire que c'est un menteur, que c'est un... Il a même fait des poèmes contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est son cousin. Abu Sufyan ibn al-Harith, gardez bien ce nom-là. Et le cousin du côté, un cousin maternel et un cousin paternel. Le cousin maternel était Abdullah ibn Abi Umayya. Sa maman était la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan ibn al-Harith, son père était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit ces deux personnes. Et ces deux personnes étaient des ennemis de l'islam. Ils n'arrêtaient pas à critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas à le critiquer, à l'insulter. Si c'était des critiques, c'est pas grave, tout le monde peut critiquer. Mais insulter et dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils sont arrivés, le prophète était dans sa tente. On l'a informé qu'ils sont là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yarhamakallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je ne veux pas les voir. Tellement ils lui ont fait du mal, ces deux personnes. Parce que c'était deux personnes de sa famille. C'est ça que c'est plus dur. Si c'était Abu Jahl et des choses comme ça, ça c'est des ennemis déclarés. Les deux personnes de ta propre famille qui, comme Abu Lahab, il a fait énormément de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que c'était son oncle. Donc il dit la hajat alayhim, je ne veux pas les voir. Et après Abu Sufyan ibn al-Harith, il dit je prends mon fils, il avait son fils avec lui, un petit de 8 ans, il a dit je le prends et je pars dans le désert. Si le prophète n'accepte pas de me recevoir, je vais mourir avec lui dans le désert. Et ça a touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après il est parti voir Ali pour lui dire, ya Ali, qu'est-ce que je dois faire ? Abu Sufyan ibn al-Harith, il dit à Ali. Ali lui a dit, j'ai une idée. Va le voir. Va et dis-lui ce que les frères de Youssef ont dit à Youssef. Tallahi laqad atharaka Allahu alayna wa in kunna la khatayin. Lui dit, dis-lui cette parole-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être noble. Karim. Et sa réponse doit être la réponse d'un Karim. Si Youssef a répondu La tathriba alaykum al-yawma yaghfiru Allahu lakum. Le verset, qu'est-ce qu'il dit? Tallahi laqad atharaka Allahu alayna. Tallah, wallah, par Allah, Allah t'a privilégié sur nous. Wa in kunna la khati'in. Nous étions en tort. Nous avons fait du mal. Dis-lui cette parole-là. Et Youssef, qu'est-ce qu'il a répondu à ses frères ? La tathriba alaykum, al-yawma yaghfiru Allahu lakum. je ne vous fais aucun reproche aujourd'hui. Dieu vous pardonne, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu la parole, il a dit, comme Youssef, la tathrib alaykum al-yawm yaghfirullah. Il était aussi noble que Youssef alayhi salam. Donc Abu Sufyan, c'est un point, comme on a dit, il dit l'amruka inni hina ahmilu rayatan li taghliba khaylan lati khayl Muhammadi lakal mudlij al hayran adwam laylahu fa hadha awani hina ahdi hina uhda fa ahtadi hina uhda fa ahtadi. Donc ça c'est le moment qu'Allah me guide et je me guide vers Allah subhanahu wa ta'ala. هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طردته كل مطردي. Il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit هداني هاد غير نفسي ودلني. C'est pas mon nefs, mais Allah m'a guidé. على الله من طردته كل مطردي. Celui que avant je critiquais, je dénigrais, Allah subhanahu wa ta'ala m'a guidé à travers lui. Le prophète lui a dit, oui, tu m'as fait du mal. Il lui a rappelé, oui, tu as fait des choses. C'est-à-dire que tu m'as empêché de faire, tu m'as dénigré. Très bien, maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'armée musulmane avancent. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Mar al-Dahran, il jeûnait avant. Et ce jour-là, il dit, il prend un verre d'eau, une gourde d'eau de l'époque, et il dit, Ayyuhan nas, inni fatir. Et après, il boit devant tout le monde, et c'était le jour. Et tout le monde boit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils ont arrêté de jeûner parce qu'ils étaient en voyage, et un voyage difficile, bien sûr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a avancé jusqu'à une vallée qui s'appelle Wadi Fatima. Il est arrivé avec la prière de l'Isha. Il demande à son armée de s'arrêter et d'allumer le feu, d'allumer du feu. Chaque 3-4 personnes doivent allumer un feu. Parce qu'il sait que Quraysh maintenant c'est pas loin et que les Quraychites vont envoyer des gens pour voir. Il veut montrer le nombre. Parce que Quraysh maintenant n'a plus la possibilité de combattre et de se préparer. Ça y est, le prophète est arrivé presque. Donc, ce n'est pas grave si Quraysh le sache maintenant que le prophète est là. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à chaque 3-4 personnes, il leur a dit, rassemblez du bois et faites un feu. Et maintenant, le feu, il se voit un peu de partout. L'armée musulmane, le soir, et on va voir la suite de l'histoire. Donc, Ashratu alafina. 10 000 hommes, il y avait 10 000 foyers de feu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Omar ibn al-Khattab d'être le chef de sécurité de l'armée musulmane. Abu Sufyan maintenant. Maintenant c'est le vrai Abu Sufyan, l'autre. Abu Sufyan ibn al-Harb, l'ennemi numéro 1 du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout à l'heure on a parlé de Abu Sufyan ibn al-Harith, qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était un ennemi, qui est venu et devenu un bon musulman, un très bon musulman. On dit même que Abu Sufyan, Abu al-Hadith, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit de lui que depuis qu'il est devenu musulman, il n'a jamais levé les yeux devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais regardé le prophète en face, jamais. Par timidité, par honte, par pudeur de tout ce qu'il a dit avant l'islam. Avant de devenir musulman, il n'osait pas voir en face le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup. Et shahida lahu bil jannah, le prophète a dit que Abu Sufyan sera parmi les gens du paradis. Et Abu Sufyan dit de lui avant de mourir, donc avant de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de lui qu'il me remplace Hamza. Et ça c'est... Il me remplace Hamza. C'est comme si Abu Sufyan ibn al-Harith remplace Hamza. C'était son cousin. Et quand la mort est arrivée, à Abu Sufyan al-Harith, il dit « La tabku alay, ne pleurez pas, fa wallahi ma nataqtu bi khati'atin mundu aslamt. » C'est des hommes d'engagement. Il dit « Depuis que je suis devenu musulman, je n'ai jamais prononcé une parole de péché, une parole injuste, une parole qui m'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, depuis que je suis devenu musulman. » Voilà Abu Sufyan al-Harith. Maintenant, on parle de Abu Sufyan ibn Harb, l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, maintenant, vous vous souvenez, il est venu à Médine. Il a cherché à prolonger la trêve. Ça n'a pas marché. Il est revenu à la Mecque. Et maintenant, il attend peut-être. Il attend, est-ce que l'armée musulmane va arriver, combien. Il n'avait pas d'informations. Il sort de la Mecque avec deux autres personnes pour aller voir un peu. L'armée musulmane était juste à côté. À ce moment-là, Al-Abbas. Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Qu'est-ce qu'il fait ? Al-Abbas, il prend le mulet du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il va se diriger vers la Mecque. Pourquoi ? Il cherche à trouver quelqu'un pour informer les Mécois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là devant vous. Je vous conseille d'envoyer une délégation de Mécois pour demander pardon au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il arrive à Médine, à la Mecque. Avant qu'il arrive. L'Abbas, il voulait conseiller les Mécois d'envoyer une délégation pour demander pardon au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il sait que si les gens demandent pardon, le prophète pardonne à tout le monde. Donc il est sorti avec le mulet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète lui a donné son mulet. Et donc, quand il passe devant l'armée musulmane, ah, c'est le mulet du prophète, ah, c'est l'encre du prophète, personne ne dit rien. Il est parti, à un moment donné, c'était la nuit, il dit, j'entends, il s'approche de la Mecque, il entend des gens parler. Ah, c'est elle, il entend Abu Sufyan avec ses deux amis, ils ont vu le feu, Abu Sufyan a vu le feu. Il disait à ses amis, mais c'est quoi ce feu-là, c'est qui ? L'autre lui a dit, c'est Khouza'a peut-être. Khouza'a, il me dit, non, Khouza'a, c'est pas ce nombre-là, regarde. Regarde le feu qu'il y a, toute la vallée, elle est en... Non, c'est pas Khouza'a. Et c'est là où l'Abbas les a entendus parler. Il y a Abu Sufyan, lui a dit, il y a Abu Hanbala. Abu Sufyan l'appelait Abu Hanbala. Il dit, na'am, il y a Abu al-Fadl. L'Abbas l'appelait Abu al-Fadl. Donc, et ils se sont rencontrés. Il lui a dit, monte derrière moi. Dans le mulet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'amène vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses deux copains sont revenus à la Mecque et lui, il est parti avec lui voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Sufyan ibn Harb arrive et traverse l'armée musulmane. Tout le monde regarde, ah c'est qui, c'est l'Abbas, avec qui ? On ne sait pas. Les gens ne connaissaient pas forcément Abu Sufyan. Il faisait nuit. Et quand il passe devant Omar al-Khattab, il l'a reconnu. Il dit, Abu Sufyan, adouullah, il court derrière pour le tuer. Et l'Abbas, il court. Et le mulet a été plus rapide. Ils arrivent devant la tente du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'arrête, il le prend, il le rentre directement chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à Rasulallah, Omar al-Khattab, il veut le tuer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, prends-le, qu'il dorme avec toi, et demain matin, amène-le. Pour qu'on en parle. Le lendemain matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit Abu Sufyan. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ya Abu Sufyan, wayhaka ya Abu Sufyan, wayhaka, malheur à toi ya Abu Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lama an la ilaha illallah » Le temps n'est pas venu à toi pour, avec tout ce que tu vois, toute la victoire, ça se concrétise devant tes yeux, tu vois. Abu Sufyan, subhanallah al-azim, tu te dis comment il a assisté à tout, il a vu comment Allah a donné la victoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Badr. Il a vu comment ils ont encerclé à 10 000 hommes Médine. Et Allah a fait déjouer leur roi. Et ça, il l'a vu avec ses propres yeux. C'était le chef. Il est parti en Syrie, il a rencontré le roi. Vous vous souvenez de l'histoire quand je vous ai raconté, quand il a rencontré le roi. Et le roi, il lui a dit, ça, c'est le prophète. C'est le prophète qu'on attend. Donc, et malgré tout, subhanallah, Allah ne l'a pas guidé. Mais c'est le moment, là il va être guidé. Alam ya'ni wayhaka ya Aba Sufyan, malheur à toi Abu Sufyan. Le temps n'est pas venu pour que tu saches qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que ces idoles ne servent à rien. On dit oui, le temps est venu. Ashhadu an la ilaha illallah. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit wayhaka ya Aba Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lama anni rasulullah. La première partie du shahada, c'est bon. La deuxième partie du shahada, il m'a dit, là j'ai encore un doute. J'ai encore un doute. Subhanallah, avec tout ce que Allah lui a donné, toutes les. Il m'a dit, non, là j'ai encore un doute. Le prophète Hassan le prend comme ça, il secoue un peu. Et après, l'Abbas lui dit, t'as un doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager de Dieu et avec tout ce que Allah lui a donné. Wayhak, amin, wayhak, amin. Crois en Dieu. Et c'est là qu'Allah le guide. Et il dit, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Abu Sufyan, à ce moment-là, c'est le jour où il est devenu musulman. Mais on va voir qu'Abu Sufyan est devenu musulman au début, comme ça, mais il reste encore les traces de l'jahiliya dans sa tête. Et que cette foi, avec le temps, va s'enraciner, va devenir l'un des grands compagnons par la suite, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, c'est-à-dire que ça, là il a attesté parce que il a vu la victoire, il a vu que tout est devant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi parce que quand le prophète dit wayhaka ya Aba Sufyan, le Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il dit? Bi abi anta wa ummi, bi abi anta wa ummi, ma ahlamaka wa akramaka wa awsalak. Ma ahlamak, que tu es doux, wa akramak, noble, wa awsalak, tu prends en considération les liens de parenté. Parce que comme je vous ai dit, Abu Sufyan, il fait partie de Bani Abdi Manaf. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de Bani Abdi Manaf. Donc, entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux grands pères. Donc, il était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la lignée, dans la famille. Donc regardez comment Abu Sufyan, il était aussi doux avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris. Donc قال العباس يا رسول الله. Donc l'Abbas, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, là Abu Sufyan n'était pas là. L'Abbas dit ya رسول الله ان ابا سفيان رجل يحب الفخر. L'islam ne l'a pas encore nettoyé. يُحِبُّ الْفَخْرِ. C'est quoi يُحِبُّ الْفَخْرِ? Il aime l'arrogance, de se montrer. Ah, moi je suis Abu Sufyan, je suis... Tous les gens de l'Jahiliya, c'est comme ça. Hein, jusqu'à aujourd'hui. Celui qui aime se montrer et aime, c'est Jahiliya. Ça c'est Jahiliya. Ça c'est l'ignorance. Hein. Regardez autour de vous. Hein. Hein, les gens qui disent, moi j'ai fait... Il dit, Ya Rasulallah, l'Abbas dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut que tu lui donnes quelque chose de particulier pour lui, pour que quand il rentre à la Mecque, il a fait une réalisation, il a fait quelque chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ya Aba Sufyan, donc va aux Mécois et tu leur passes un message. Man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa amin. Celui qui se réfugie dans la maison de Abu Sufyan, aucun musulman ne le touche. Celui qui reste chez lui, aucun musulman ne le touche. Celui qui est au sein de la mosquée, al-haram, personne ne le touche. Donc, les musulmans ne s'attaquent qu'à des gens armés qui veulent empêcher les musulmans de rentrer à la Mecque. Mais celui qui est chez lui, on ne viendra pas lui casser la porte pour le tuer ou quoi que ce soit. Celui qui est chez Abu Sufyan, il avait une grande maison, mais elle ne suffit pas pour tenir mais quoi. Mais le fait de dire cette parole-là, ça a fait plaisir à Abu Sufyan. Ça lui fait plaisir que les gens, celui qui rentre chez moi, il est en sécurité. Ça lui a fait plaisir. C'est pas grave. Le professeur lui a donné ce plaisir-là. même si ça change rien. Mais... Donc, وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنُ. Donc, c'est quoi cette déclaration? C'est que ceux qui portent des armes, qui veulent empêcher les musulmans de rentrer à la Mecque, seront combattus. Et toute la population qui reste chez elle, les femmes, les enfants, les hommes qui ne veulent pas combattre, qui restent chez eux, personne ne s'attaque à eux. D'accord? Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, l'armée musulmane quitte Al-Dhahran pour avancer vers la Mecque. Maintenant, c'est la dernière étape. Maintenant, c'est directement à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Al-Abbas, retiens Abu Sufyan, retiens-le sur la montagne pour qu'il observe l'armée musulmane. J'aimerais bien qu'il observe l'armée musulmane. Avant de rentrer à la Mecque, retiens-le pour qu'il observe. Et là, Abu Sufyan, il était avec Al-Abbas et les brigades. Parce qu'il y avait plusieurs brigades. Chaque tribu avait sa propre brigade. Ben Ousselim, une brigade. Rifar, une brigade. De plusieurs centaines d'hommes. Et donc, il dit, Abu Sufyan, quand il voit la première brigade passer, il dit, c'est qui eux? Il dit, Salim, la brigade de Salim. Mali ou les Salim, qu'est-ce que j'ai à faire avec Salim, moi, pourquoi ils sont là? Thumma tamurru qabila, une autre tribu, Muzayna, Mali ou les Muzayna. Et après, man haoulaï Abbas, à chaque fois il lui dit, telle tribu, jusqu'au moment où la brigade verte passe. Et c'est qui la brigade verte? C'est le Muhajirin ou l'Ansar. C'est les vrais Médinois, 3000 hommes ou plus. C'est la crème de la crème. C'est les vrais compagnons qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis le début. C'est les Muhajirin ou l'Ansar dont Allah parle dans le Coran Karim. Hein? C'est vraiment la colonne vertébrale sur laquelle l'islam s'est constitué. El Muhajirin ou l'Ansar. El Katibat ou l'Khadra. Ils disent qu'ils étaient protégés par le fer, on ne voyait que leurs yeux. Hein? Et c'est pour ça qu'on l'appelait le Khadra, parce que le fer était partout. Hein? Ça reflétait, on l'appelait El Katibat ou l'Khadra. Et quand Abu Sufyan a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la tête de Muhajirin ou l'Ansar, plus de 3000 hommes, il dit, je ne crois pas que quelqu'un peut résister à des hommes comme ça. Je ne crois pas qu'une armée peut résister à des hommes comme ça. Il dit, Wallahi ya Abul Fadl, laqad asbaha mulku li akhika al-yawm 'azima. Regardez les traces de Jahili, les traces de l'ignorance. Il dit, Abul Fadl, Abu Sufyan, il parle à Abbas, il dit, oh, aujourd'hui, le royaume de ton gendre, c'est pas gendre, le fils de son frère, c'est un neveu, le royaume de ton neveu est devenu énorme aujourd'hui. Et l'Abbas il corrige, non, c'est pas le royaume, c'est la prophétie. Ya Abu Sufyan, t'as pas encore compris la leçon, t'as pas encore compris, c'est pas le roi, c'est pas le pouvoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas la royauté, c'est pas la richesse, c'est la prophétie, c'est une nubuwa. Ça c'est quelque chose de fondamental, de très important. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi en 23 ans à changer le monde? Le monde a changé complètement. C'est pas parce qu'il était génie, c'est pas parce qu'il était intelligent, c'est pas parce qu'il était prophète soutenu par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la raison principale. Hein? Aujourd'hui, vous avez certains orientalistes ou certaines personnes qui te disent, ah, Mohammed, c'était un génie, c'était un homme extraordinaire. Mais ça, pour nous, c'est une critique. Nous, on n'accepte pas ça. On n'accepte pas que les gens qui disent ce qu'ils veulent. Mais nous, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était avant tout, Allah lui a donné la grande sagesse, Allah lui a donné, mais c'était avant tout un prophète d'Allah, soutenu par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas l'intelligence, c'est pas la sagesse, c'est pas la ruse, c'est la prophétie. L'Abbas, il a bien compris la leçon. L'Abbas est un ancien musulman, donc il sait. « Ya Abu Sufyan, innaha an-nubuwa » Parce que Allah l'a soutenu, parce que c'était le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a réussi. Il est parti, imaginez, hein, imaginez, une seule seconde. Il y a 8 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de la Mecque, n'est-ce pas? Il est sorti comment? En cachette, avec son compagnon. Il était poursuivi. Tout le monde voulait sa mort. Il s'est caché dans une grotte pendant 3 jours. Au lieu d'aller vers Médine, il est parti vers le Yémen pour changer carrément de direction. Regardez, regardez le contraste. Il y a 8 ans, il est parti dans cette situation. 8 ans après, quand il est revenu? À la tête d'une armée de 10 000 personnes. Voilà la victoire qu'Allah a donnée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sur sa chamelle, on dit, et que en rentrant à la Mecque, il avait la tête baissée. Hein, quand il est sur une chamelle, normalement tu dois être comme ça. D'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait la tête baissée jusqu'à ce que son front touchait le dos de sa chamelle. Il n'est pas rentré en conquérant, me voici, moi j'ai... Non, il est rentré à la Mecque modeste. Ce n'est pas sa personne qui va mettre en valeur, c'est la foi à laquelle il appelle sallallahu alayhi wa sallam. Donc il disait les gens, on ne voyait même pas son visage, il avait la tête comme ça. Et ça montre son comportement et ses qualités humaines. Allah l'a éduqué. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas quelqu'un d'arrogant. C'est pas sa propre victoire, c'est pas la victoire qu'il... Et on va le voir par la suite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, Sa'd ibn Ubadah, il avait l'étendard des musulmans. L'étendard des musulmans était dans la main de Sa'd ibn Ubadah. Sa'd ibn Ubadah, c'est un très bon compagnon médinois. Et quand il passe devant Abu Sufyan, il le regarde et dit « Al-yawma yawmu al-malhama » Al-malhama, c'est quoi le malhama? C'est la boucherie. Malhama, c'est la boucherie. L'ahm, c'est quoi la boucherie, c'est le malhama. Il regarde Abu Sufyan et lui dit « Tu vas voir, aujourd'hui on va... » Exactement. « Al-yawma yawmu al-malhama » Aujourd'hui, tout ce qui était sacré ne le devient pas aujourd'hui. On va vous exterminer. Parce que personne ne savait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait faire. Donc Abu Sa'd ibn Ubadah croyait qu'aujourd'hui ils vont tuer tout le monde. Parce qu'ils ont tellement fait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ces gens-là méritent al-malhama. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui était à côté de Saad a reculé, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, regarde ce que Saad a dit. Ya Rasulallah, Saad a dit devant Abu Sufyan, Al-yawma yawmul malhama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, non, Al-yawma yawmul marhama. C'est quoi al-marhama? Al-rahma, c'est quoi? Marhama, c'est la miséricorde. Malhama, marhama. Il n'y a qu'une seule lettre qui change, mais le sens change complètement. Et après, il envoie le compagnon, un compagnon, il dit, il appelle Sa'd, Sa'd ibn Ubadah. Il l'appelle, il lui enlève l'étendard des musulmans. Il a dit, c'est pas toi qui le porte. Mais Sa'd, c'est un homme noble, c'est un compagnon parmi les meilleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très intelligent, subhanallah. Allah lui a donné la sagesse. Qu'est-ce qu'il fait, sallallahu alayhi wa sallam? Il lui enlève pour le punir. Pour dire, ya Sa'd, ce que tu viens de dire, c'est mauvais. C'est pas, on n'est pas venu pour ça. Il lui enlève l'étendard. Il le donne à qui? À son fils. Il le donne à son fils, le fils de Sa'd. Est-ce que c'est une punition? Est-ce que c'est une... À votre avis, est-ce qu'il l'a puni? Indirect. Il lui a dit... Il lui a fait passer un message, mais quand tu donnes ton chef, ton fils devient chef à ta place. Est-ce que tu es content ou tu es plutôt content, hein? Mais le professeur Hassan, l'intelligence qu'Allah lui a donnée, la sagesse, c'est que Saad, c'est un homme parmi les gens qui ont tout sacrifié pour Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, ce n'est pas facile de lui enlever l'étendard et de donner à quelqu'un d'autre. Ça va le toucher, n'est-ce pas? On est humain. Mais le professeur Hassan prend en considération cette partie-là. Il ne voulait pas faire du mal à Saad. Mais il ne pouvait pas laisser passer ça non plus. Saad, il faut qu'il soit écarté de ce poste-là. Parce que il va peut-être déclarer une guerre. Il doit comprendre que ce qu'il a fait, c'est pas bon. Mais sans lui faire du mal. Il l'a enlevé et l'a donné à son fils. Saad était content, tout le monde était content. Et le prophète a fait quelque chose pour corriger le tir. Ça c'est... Donc... ولما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال له العباس النجاء إلى قومك. Quand le prophète صلى الله عليه وسلم passe devant Abu Sufyan, il le regarde. Et à ce moment-là, l'Abbas il dit à Abu Sufyan, vas-y, maintenant cours vers ton peuple pour leur faire passer le message du prophète صلى الله عليه وسلم. C'est quoi le message? Celui qui reste chez lui, il est en sécurité. Celui qui reste au sein de la mosquée, il est en sécurité. Celui qui est hébergé chez Abu Sufyan est en sécurité. D'accord? Je ne suis pas venu pour faire la guerre. Mais malgré tout, donc Abu Sufyan, il vient, il rentre à la Mecque. Ya ma'ashara Quraysh, ya ma'ashara Quraysh, oh les Quraishites, hada Muhammad. Il est là avec son armée. Qad ja'akum fi ma la qibala lakum bih. Il est venu avec une armée que vous ne pouvez pas combattre. C'est فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. Il dit, celui qui vient chez moi, il est en sécurité. Les gens lui disent, tabban lak, malheur à toi. Hein? Est-ce que dar Abu Sufyan va subir pour tous les Mécois? Et après il dit, ومن قعد في بيته فهو آمن. ومن قعد في المسجد فهو آمن. Donc là les gens. Et après sa femme Hind. Détester le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bintu Utba. Pourquoi elle le déteste? Pendant la bataille de Badr, le prophète, là-bas, elle a perdu qui? Elle a perdu son père, Utba. Elle a perdu son frère, Al-Walid. Elle a perdu son oncle. Et elle a perdu son fils pendant la bataille de Badr. 4 morts. Et donc c'est elle qui s'est vengée de Hamza, vous vous souvenez? Et elle lui a même arraché le on dit, c'est pas certain, on dit qu'elle a mâché le foie de Hamza, radiallahu anhu, shahid, après l'avoir tué. Et donc, Hind bint Utba, c'était une femme. Et donc, elle prend son mari, Abu Sufyan, il parle. Elle le prend par la moustache, il le tire. Elle lui dit, Jabal, c'est un lâche, ne le croyez pas, combattez, préparez-vous pour la guerre, c'est un lâche. Elle dit de son mari. Et lui, il avait bien compris, il dit, La tarrannakum hadi, que cette femme-là ne vous induit pas en erreur, moi j'ai vu, et je sais ce qui arrive, cachez-vous chez vous, et vous serez en sécurité. Fatafarraqa an-nas ila durihim, les gens sont partis tous chez eux. Ouais. Donc, mais vous avez une poignée de jeunes, une de moins jeunes, et ils ont décidé de résister. Ils ont décidé de résister contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, Safwan ibn Umayya, Ikrima ibn Abi Jahl, ou Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr, vous vous souvenez de lui? Celui qui est le négociateur. Et d'autres. Donc ils étaient, on va dire, 30 à 40 personnes qui ont décidé de résister et de combattre les musulmans. D'accord? Donc l'armée musulmane avance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout au long de son avancement, baisser la tête, tawadu an billah, cette victoire vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça ne vient pas de moi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'osait même pas lever la tête, parce qu'Allah lui a donné une grande victoire, al-fath. Hatta anna sha'ra lihyatihi la yakadu yamassu wasitat ar-rahl, sa barbe touchait les poils de sa monture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a dispersé pour que l'armée musulmane ne rentre pas d'un seul coup. Il dit à Khalid ibn al-Walid, toi tu fais le tour et tu rentres par le côté du sud, on dit Masfal, c'est le bas de la Mecque. Une autre, Saad, donc Khalid ibn al-Walid, al-Yumna, donc le côté droit, d'accord, أمره أن يدخل مكة من أسفلها. Donc le côté le plus bas de la Mecque. Et il lui a donné rendez-vous à As-Safa. As-Safa, As-Safa ou Al-Marwa. Il y a deux montagnes. Il lui a donné rendez-vous à As-Safa. Zubayr ibn al-Awwam, il lui a demandé de venir du côté gauche. Et il porte l'étendard du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est rentré à la Mecque. Donc il demande de rentrer du haut de la Mecque, une coudelle. Et il doit rester à un endroit qui s'appelle Al-Hajoun et ne pas le quitter jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive. Abu Ubaida ibn al-Jarrah était avec les gens qui marchaient sans monture. Et parmi eux, des gens sans armes. Donc il lui demande d'aller directement à la Mecque. Donc trois grandes parties de l'armée musulmane. Et donc, l'armée musulmane commence à entrer. Amma Khalid, c'est le seul qui a rencontré les 40 personnes insurgées contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il y a eu une petite bataille. Et pendant cette bataille, il y a deux musulmans qui sont morts. Et 12 parmi ces jeunes, parmi les mécois. En tout et pour tout, pendant le Fath Makkah, il y avait ces 12 personnes et d'autres personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on tue. Et je vais vous raconter leur histoire. D'accord ? Ils étaient 18, mais en réalité, il n'y a que 8 qui sont morts parmi ces gens-là. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de tuer, même si on les trouvait devant la Kaaba. Et on va raconter leur histoire, un par un. C'était des gens qui étaient vraiment, vraiment très, très. Ils ont fait énormément de mal à l'islam et aux musulmans, et on va les voir ensemble. Khalid ibn Walid a rencontré ces gens-là à Al-Khandama. Donc, ils ont tué 12 hommes parmi ces gens-là. Khalid donc arrive, après cette petite bataille. Donc, Mecca, normalement, c'est un endroit haram. On ne peut pas faire la guerre à la Mecque. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons que Allah lui a autorisé une heure à la Mecque. Et c'est pour ça qu'il voulait éviter toute guerre. D'accord ? Il disait aux gens, si vous restez chez vous, personne ne vous... Mais malgré tout, les gens ont résisté. Et donc, il y a eu quand même 2 musulmans tués et 12 hommes tués parmi les Mecquois. Zubayr est arrivé à l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à la Mecque devant la Kaaba. Dakhal al-Masjid. Il rentre à la mosquée. La mosquée, c'est la Kaaba, mais tout autour de la Kaaba, on appelle ça la mosquée. Aujourd'hui, la Kaaba, elle est beaucoup plus grande qu'avant. La Kaaba elle-même, elle est pareille. Mais al-Sahm, là, si vous voyez, là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus grand qu'avant. Avant, on avait des maisons juste à côté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre à la mosquée. Fa'aqbala ila al-hajar al-aswad. Al-hajar al-aswad était toujours là, à cet endroit-là où il est aujourd'hui. Fa'stalamahu wa qabbala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prend avec la main et l'embrasse avec il l'embrasse. Et après, il fait le tawaf. Il fait le tawaf sur sa chamelle. Il n'était pas... Il n'a pas fait la Omra. Pourquoi il n'a pas fait la Omra? Il est venu pour la bataille. Il n'est pas venu pour la Omra. Il n'est pas venu en état de sacralité pour faire la Omra. Vous vous souvenez quand on a vu la Omra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait faire la Omra, comment il est venu? Ben, à côté de Médine, à Bir Ali, ben, il se met en état de sacralité. Là, il est venu armé. Ça, c'est exceptionnel, exceptionnel. D'ailleurs, c'est tellement exceptionnel que la seule fois qu'Allah a autorisé à un prophète, c'est cette fois-ci. Donc, d'entrer à la Mecque de cette manière-là. À quelqu'un, l'armée de Abraha qui est venue détruire la Kaaba. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Allah les a anéantis complètement. Mais l'armée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous aura autorisé. D'accord? Donc, il rentre, il fait le tawaf. Et à chaque fois, il avait sur lui son arc, l'arc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la main. Et autour de la Kaaba, il y avait 360 idoles, 360 statues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait la prière, fait le tawaf. Et au moment où il fait le tawaf, à chaque fois il passe par une idole, il pousse avec son arc. Il dit « وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ الْحَقُّ est venu وَزَهَقَ الْبَاطِلُ الْبَاطِلُ t'anéantit. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا الْبَاطِلُ en réalité, il porte en lui-même les moyens de sa destruction. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Et donc, il a cassé toutes les statues autour de la Kaaba, toutes. Sallallahu alayhi wa sallam. Et même la parole dit, parfois des statues sont en haut, croisent un fait Ishara. Ils ne les touchent même pas, ils tombent sur leur tête, sur leur visage. D'accord? Parce qu'ils avaient des visages. Il fait juste Ishara comme ça. Il dit, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Et les statues tombent. Quand il a fini, il appelle Uthman ibn Talha. Uthman ibn Talha. Uthman ibn Talha, c'est qui? Il a les clés de Al-Ka'ba. Pour ouvrir Al-Ka'ba, il rentre. Il appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam Uthman ibn Talha. Il y a Uthman, il dit amenez-le. C'est un mécois. Il arrive, il lui demande la clé. Il lui donne la clé. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Uthman, tu te souviens? Il lui dit, non, je ne me souviens de rien. Le prophète lui rappelle une petite histoire. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu, avant quand il était à la Mecque, hein, il y a plus de 10 ans, il a vu les gens rentrer à la Mecque, à la Kaaba, à l'intérieur de la Kaaba. Il était prophète, mais détesté par tout le monde. Il arrive, il a vu les gens rentrer, il s'est dit, je vais rentrer, comme tout le monde. Il met le premier pas, le deuxième pas, le troisième. Et Uthman ibn Talha le pousse. Il dit, non, toi, tu n'as pas le droit de rentrer. Toi, tu n'as pas le droit de rentrer. Et un prophète s'en va par là. Hein, tu as quitté la religion de tes parents, tu as inventé ta religion, je ne te laisse pas rentrer. Et le prophète s'en va par là, il l'a regardé, il lui a dit, souviens-toi de ce geste-là. Et après, il part. Et là, regardez comment la roue tourne, subhanallah. Le prophète appelle Uthman et il lui donne la clé. Il dit, ah, Uthman, tu te souviens de quelque chose? Il dit, non, je ne me souviens de rien. Il dit, tu te souviens du jour où j'étais là pour monter, je voulais rentrer? Il a dit, il avait carrément oublié. Là, il a baissé la tête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien fait à Uthman. Mais vous allez voir qu'après, Ali ibn Abi Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ouvre la Kaaba avec la clé et rentre. Il ferme la porte. Et à l'intérieur, il y avait Bilal et Oussam. Vous avez trois personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bilal et Oussam, ibn Zayd. Mais trois personnes. Deux personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait énormément, Bilal et Oussam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirige, donc il est à l'intérieur de la Kaaba. Là où tu te diriges,
tu peux faire la prière. À l'intérieur de la Kaaba, tu peux faire la prière dans toutes les, dans tous les sens. Tu es dedans. Donc il laisse un pilier à droite et un pilier à gauche. Il commence, il fait 2 rak'ah à l'intérieur de la Kaaba. Avant de faire, il a vu la photo, ils ont dessiné Ibrahim et Ismaïl dans la Kaaba. Dessin. Comme s'ils jouaient avec l'Azlam. L'Azlam, c'est un tirage au sort. D'accord, c'est un tirage au sort que les Arabes faisaient, comme si le tirage au sort de cette manière-là, l'Azlam, il y avait un peu de shirk dans l'Azlam. C'est pas un tirage au sort simple, hein, c'est shirki, d'accord. Et donc, il a vu Ibrahim et Ismaïl dessiné en train de faire l'Azlam. Il y a l'Abou Nabi l'Azlam. Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit trop. Et il a vu qu'il y avait. Il a dit même, قاتلهم الله, qu'Allah les tue. والله ما استقسما بالأزلام أبدا. Ibrahim et Ismaïl n'ont jamais fait ça. ورأى في الكعبة حمامة من عيدان, un pigeon qui est dessiné avec des morceaux de bois. فكسرها بيده. وأمر بالصور, toutes les figures qui existaient, il a ordonné qu'on les casse et qu'on laisse la Kaaba propre. D'accord. Et c'est à ce moment-là qu'il a prié sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti à l'intérieur de la Kaaba. Dans chaque coin, il a fait le takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dans chaque coin de la Kaaba. Parce que cette Kaaba-là a été salie pendant des siècles et des siècles. Pendant des siècles, la Kaaba est devenue le noyau de shirk. D'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nettoyé, alhamdulillah. Wahdahu la sharika lah. La ilaha illallah, wallahu akbar, dans les coins, les quatre coins de la Kaaba. Et après, il ouvre la porte. Il ouvre la porte. Là, il est à l'intérieur avec Oussama et Bilal. Il ouvre la porte et il regarde devant lui, tous les Quraishites sont là. La porte, elle était un peu élevée. Donc, il ouvre la porte, il tient les deux côtés de la porte, comme ça, il est debout, il tient les deux côtés de la porte. Faqal, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa hazama al-ahzaba wahda. ألا كل مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين. Donc tous vos vengeances, toutes les pratiques de l'jahiliya que vous faisiez avant, je les écrase, ils sont sous mes pieds. Pour nous dire maintenant, il y a une autre époque qui commence, l'époque de l'islam. Et l'jahiliya quitte la Mecque d'une manière définitive. Il dit « Illa sadanat al-bayti wa siqayata al-hajj » Donc restera les gens qui s'occupent de la Kaaba et les gens qui donnent à boire et à manger aux pèlerins. Ça, c'est des pratiques qui doivent rester. Et ça reste ici jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. « Ya ma'ashara Quraysh, inna Allah adhaba ankum nakhwat al-jahiliyati wa ta'adhumiha bil-aba al-nasu min Adam wa Adam min Turab » Ya Quraysh dit Allah a effacé Nakhwat al-Jahiliya, le fait de dire nous sommes les Arabes, nous sommes les purs sang. Allah n'accepte pas ça. Kullukum min Adam wa Adam min Turab. Vous êtes tous de Adam et Adam vient de Turab. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il lita'arafu, inna akramakum 'inda Allah atqakum. ثم قال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم ça c'est la parole, il faut bien la garder. ما ترون أني فاعل بكم. Que pensez-vous? Qu'est-ce que je dois faire maintenant de vous? Vous avez tué mes compagnons, vous nous avez expulsés, vous avez torturé, vous avez fait vous Quraysh, vous avez fait tout ça. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que je dois faire de vous? Et ils lui ont dit Akhun karimun wabnu akhin karim. Tu es un frère noble, le fils d'un frère noble. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme Youssef a dit, la tathriba alaykum al-yawma yaghfirullahu lakum. La tathriba alaykum al-yawma yaghfirullahu lakum. Idhhabu fa antum at-tulaqa. At-tulaqa. Hein, vous êtes libre. Taliq, c'est libre. D'accord? At-talaq, hein, taliq, c'est la même racine. Idhhabu, partez, vous êtes tous libres. Il ne s'est pris, il n'a touché à personne. Sauf les 18 personnes qu'on va citer par la suite, Inch'Allah. Et on va voir pourquoi, pour certains parmi eux. On ne va pas les citer tous. Mais, dont 8 sont morts parmi les 18. D'accord ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ça c'est quelque chose de fondamental, le pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ce pardon, il a gagné les cœurs de ces gens-là. Tous les Mécois sont devenus musulmans par la suite, tous. Imaginez qu'il a cédé à la vengeance, à sa propre vengeance. Et c'est légitime, c'est légitime. Mais s'il avait cédé, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il aurait tué les hommes parmi ces gens-là. Et qu'est-ce qu'ils laisseraient ? Des traces ? Leurs enfants, leurs femmes, leurs épouses ? Est-ce qu'ils vont adhérer à l'islam ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une vision. Il ne se vengeait jamais pour sa personne. On lui a fait du mal, on a tué ses compagnons. Même Hind, elle va venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam après pour lui donner acte d'allégeance. Elle ne voulait pas le voir, elle s'est cachée, elle a mis un voile intégral pour qu'il ne la reconnaisse pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rigolé avec elle après, il lui a tout pardonné. Hind. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu pour tuer, il est venu pour sauver. Et ces gens-là vont devenir par la suite les gens qui vont propager l'islam dans le monde. Grâce au cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.